Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Il y a Alexandre Dubé qui est avec nous pour faire le tour des nouvelles du jour. Monsieur Dubé, bonjour.
Monsieur Dutrisac, bonjour.
Bon, alors, ça ressemble à quoi le bilan COVID?
Bon, alors tu vois, la tendance à la baisse se maintient. On est à 1100 cas aujourd'hui sur 24 000 tests, 28 nouveaux décès. Bonne nouvelle pour les hospitalisations. C'est stable, pas d'évolution de ce côté-là. On est toujours à 655. Trois personnes de moins sont aux soins intensifs pour un total de 93. Mais vraiment, la nouvelle de l'avant-midi concernant la COVID-19, c'est le décès de l'ex-ministre péquiste Marc-André Bédard, hein, à l'âge de 85 ans, qui malheureusement avait contracté la COVID au cours des derniers jours. Mm. Il était hospitalisé en raison de complications reliées au virus. Il avait déjà, M. Bédard, des problèmes pulmonaires et malheureusement, son décès a été confirmé là, cet avant-midi. On a une pensée, bien sûr, pour son fils, Stéphane Bédard, qui est un collaborateur, notamment à la Joute. M. Bédard marquait les esprits sur la scène politique parce qu'il était un proche ami, un conseiller de René Lévesque. Il a participé à la fondation du Parti québécois et il avait été élu pour la première fois député de Chicoutimi en 1973 et a occupé notamment les fonctions de ministre de la Justice, de vice-premier ministre également. Donc c'est la classe politique là, qui est en deuil aujourd'hui avec ce décès qui a été annoncé là, au cours de la dernière demi-heure.
Donc une autre victime de la COVID-19.
Ouais, et la famille de M. Bédard avait un message là, pour les gens et c'est via notre collègue Paul Larocque qui a transmis ce message-là sur les ondes de LCN tout à l'heure en disant « Soyez prudents avec ce virus-là, surtout à l'approche des fêtes, surtout avec les aînés ». Alors, on a une pensée pour la famille Bédard aujourd'hui qui vit des tristes moments.
Et par respect pour les 6000, là, on est rendu à 6800 plus là de personnes décédées et de la COVID-19. Et le contrat moral proposé par le gouvernement Legault, c'est aussi ça, là, c'est de respecter la mémoire de ceux qui sont morts de cette saloperie.
Ouais, 6915, effectivement. Tu parles de contrat moral. Ça m'amène à te parler de ce qui s'est passé hier, hein, parce qu'à un mois de Noël, Québec a révisé déjà le contrat moral qu'il avait passé avec les Québécois il y a une semaine à peine. On a eu des précisions. Et je pense que ces précisions-là étaient importantes, là, parce qu'avoir au rythme où certaines personnes se bouquaient des brunchs, des dîners de Noël, des soupers dans la même journée, il fallait peut-être avoir certaines précisions là, pour quelques personnes, notamment là, ceux qui se dandinent à la place Rosemère. Il va falloir s'en tenir à deux rassemblements dans la période où ce sera permis de le faire, entre les 24 et les 27 décembre. Alors, on contrecarre un peu là, les plans là, de ceux là, qui partaient là, pour quatre jours de un festival de quatre jours de rencontres pour profiter pleinement des fêtes. Le PM a ajouté aussi qu'on peut pas se permettre un relâchement comme ça actuellement parce que la propagation demeure élevée dans plusieurs régions. Et là, c'est aussi... Et ça va causer peut-être un casse-tête pour plusieurs employeurs et pour plusieurs familles. On nous a dit hier que si on n'était pas en mesure de se mettre en quarantaine pendant 7 jours avant les célébrations, le gouvernement nous déconseille d'y participer. Alors, une pensée pour les travailleurs de la santé, les gens des médias, par exemple. Mais tout ça peut changer encore parce que la santé publique se donne jusqu'au 17 décembre pour réévaluer le niveau d'hospitalisation de patients. Décider à ce moment-là si le feu vert peut vraiment être donné pour ces rassemblements-là. Et on entendait le docteur Arruda dire « Ce serait bien que ça descende en bas de 1000 cas par jour ». Là, tu vois, on est encore, mais là, on a du temps encore devant nous, mais on est encore à 1100 là, aujourd'hui.
Bon. Alors, évitez la place Rosemère pour aller danser dans le tarte. Ça va aider. La qualité de l'air dans les classes, ça inquiète?
Oui, ça, c'est un enjeu qu'on a beaucoup parlé, toi et moi, dans les dernières semaines. On se disait, voyons, comment ça, là, que la ventilation, ça vient seulement, là, dans l'agenda public à la mi-novembre. C'est intéressant, là, ce qui a été fait. On apprend ce matin que près de la moitié des classes dont la qualité de l'air a été testée en secret à la demande d'un groupe de médecins ne sont pas conformes aux normes de ventilation. C'est pas rien, c'est près de la moitié des classes, là. De la façon que ça s'est fait, c'est un moniteur numérique de CO2, okay, qui a été fourni à des enseignants du Grand Montréal, qui, eux, ont testé la qualité de l'air de leur classe à l'insu de leur direction d'école. Et les taux élevés qui ont été enregistrés révèlent vraiment des problèmes de ventilation qui risquent de faciliter la propagation de la COVID pendant la saison froide. C'est le collectif COVID Stop qui fait partie de ce collectif-là. Ce sont des gens qu'on connaît, notamment les épidémiologistes Nima Machouf et Michel Camus, qui comptent maintenant interpeller, maintenant avec ces données-là, le gouvernement. Pas moins de 3 classes sur 4 affichaient des taux que les experts jugent inquiétants. C'est énorme, le 3 sur 4. Et ils ont aussi remarqué que le fait, et ça aussi, ça avait été discuté, le fait d'ouvrir les fenêtres, là, ça avait fait chuter de façon quand même plus marquée le niveau de particules de CO2 dans l'air. Alors, est-ce que ce sera ça la solution? On met notre gros manteau d'hiver pour on ouvre les fenêtres, à défaut d'avoir des écoles bien aérées, bien ventilées.
Dans le rapport, dans un article du MIT, là, qu'une auditrice m'a envoyé, oui. Caroline, il y a les purificateurs d'air aussi qui fonctionnent à 99% selon le Center for Disease Control. Donc, on devrait, et je comprends pas qu'on soit encore à la traîne de l'information qui circule. Tu sais, s'il y a des classes qui ont pas de fenêtres, on peut-tu installer des purificateurs d'air? Ça a l'air que ça fonctionne, selon les études. Il me semble qu'on devrait pas prendre de chance.
Ben non, puis pourquoi, là, on est le 25 novembre, là, puis c'est pas réglé encore?
Puis on allume, là.
Ben, puis on allume, puis tu sais, là, les températures descendent. Je sais pas si à Montréal, il neige à plein ciel, mais moi, dans le nord, dans les Laurentides, il neigeait à plein ciel, c'est avant midi. Alors, l'hiver est à nos portes, Benoît, on a quelques indices. Alors, c'est sûr qu'il va falloir penser à des solutions dans les classes de nos jeunes.
Ouais, et hausse de cas, Alex, de COVID dans un CHSLD de Montréal.
Oh, et puis là, il y a des proches là qui sont vraiment inquiets, qui tirent la sonnette d'alarme face à cette augmentation-là. C'est 50 cas d'infection chez les résidents qui ont été recensés dans un centre gériatrique. C'est le centre gériatrique Maïmonides, c'est dans Côte-Saint-Luc. Donc, 50 cas au cours des 2 dernières semaines. On compte aussi une 20aine d'employés infectés. Il y a 4 décès déjà qui ont été constatés sur place. Et puis là, ben, il y a des proches, entre autres d'un résident de 81 ans qui vivent un cauchemar en ce moment. Ils ont l'impression que l'établissement n'a rien appris de la première vague, n'a pas tiré des leçons de ce qui s'est passé. On a l'intention de se faire entendre aujourd'hui d'ailleurs. Et ça va un peu à contrario de ce que le premier ministre Legault disait hier, là, en disant que ça va très bien dans les CHSLD, selon la gestionnaire du centre, son bilan, qui est le pire au Québec actuellement, n'est pas un constat d'échec. Elle dit que le virus est très contagieux, que 1000 proches aidants sont toujours autorisés de visite dans son établissement. Donc, essaie de trouver des pistes de solutions, mais quand même, le résultat net, là, c'est qu'il y a 50 infections chez les résidents à l'intérieur de ce centre gériatrique-là, une clientèle qui est extrêmement vulnérable.
Ouais. En début d'émission, je recevais Denis Leclerc, qui est un chercheur au CHUL, qui nous parlait, qui nous expliquait pourquoi le Canada est pas en tête de peloton, justement pour les vaccins, parce qu'on a tout vendu au privé, les installations Armand Frappier, on avait ça nous autres là, puis on a liquidé ça, puis ça nous appartient plus, donc on attend notre tour, on prend un numéro, on se met en ligne pour avoir un vaccin.
Ouais, pis on est mieux d'être patient parce qu'on va passer après les États-Unis, après l'Allemagne, après le Royaume-Uni également. Et pour expliquer ça, ben, M. Trudeau aussi, là, c'est sûr, on peut rajouter des
noms. Tout, ça. L'Espagne.
on est mieux d'être patient, mon Benoît, mais c'est sûr que M. Trudeau est très critiqué en ce moment par les partis d'opposition, lorsqu'il a admis, là, effectivement, qu'il y a une bonne partie de la planète qui va être vaccinée avant nous autres, avant les Canadiens. Ce qui est prévu, c'est que le Canada va recevoir ses premières doses de vaccin dans les premiers mois de 2021. Mais ça veut dire quoi? C'est-tu février, c'est-tu mars, c'est-tu
avril? Premier trimestre, hein? Moi, ce que j'ai reçu, là, la Santé publique du Québec, ils nous ont répondu, ils nous l'ont écrit, premier trimestre 2021. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'au 1er avril.
C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, premier trimestre, pendant ce temps-là, aux États-Unis, on entend commencer ça avant la mi-décembre. Et tu l'as très bien souligné, et puis M. Trudeau l'a dit aussi, a rappelé que le Canada n'avait pas la capacité de produire massivement des vaccins, parce qu'on n'en fait pas ici, on n'est pas...
Non, parce qu'on a, on a coupé le financement de la recherche.
Et voilà. Alors là, ça nous revient un peu tel un boomerang en pleine crise, alors qu'on aurait besoin d'une capacité de production de vaccins assez rapide là, alors qu'on est dans cette pandémie là depuis quoi une dizaine de mois là maintenant.
Ouais, Alexandre, pour conclure, on a la réponse de Justin Trudeau à ta chronique. Écoute ça.
On va continuer de travailler fort pour atteindre notre objectif.
C'est
lui de bâtir.
Il va continuer de travailler.
On continue de travailler fort. Alors moi aussi, je vais continuer de travailler fort, Benoît, et on se reparle demain.
Ça marche. OK, merci. Salut.
Salut.